franceinter.fr.
Campagne, bonjour. Les carnets dans la Manche cette semaine, un département qui se prépare à la 5e édition des journées portes ouvertes de ses ateliers d'artistes. Ça s'appelle Routard 50 du 3 au 5 juin, donc de samedi à lundi inclus. Des dizaines d'ateliers vont vous accueillir pour vous faire découvrir les techniques, les sources d'inspiration et les univers de création. Vous pouvez récupérer des renseignements sur le site départementalmanche.fr à la section culture et ensuite vous arrivez à Routard 50. C'est dans un grand défi que Capucine et Colline Madeleine se sont engagées. Ces deux jeunes sœurs originaires de la Manche, diplômées pour l'une et étudiantes pour l'autre, mais toutes deux en architecture, ont décidé entre mai et août de cette année d'aller à la rencontre de populations mongolies au Japon et aux États-Unis afin de découvrir les modes de vie alternatifs et une architecture adaptée aux territoires traversés. Des hommes et des lieux est le nom de leur aventure. C'est Capucine qui nous attend au bout du fil depuis la Mongolie. J'espère qu'on l'aura à peu près normalement. C'est un coup de cœur aussi, un attachement au département qui ont décidé de la création d'un festival de musique de chambre original, les Fiéfés Musiciens, festival tout public, sans enchères financières, que va nous présenter un de ses protagonistes, violoniste de profession, Stanislas Gosset, en seconde partie de ses carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Capucine Madeleine, bonjour.
Bonjour.
Capucine, merci de nous répondre du lointain. Vous êtes en Mongolie en ce moment.
Oui, oui, on est en Mongolie, à côté du désert de Gobi.
Oui, et vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec votre projet des hommes et des lieux avec votre sœur Colline en Mongolie.
Oui, alors du coup, avec ma grande sœur Colline, on est toutes les deux architectes. Bon, moi, je suis encore en train de faire mes études et Colline est diplômée depuis un an. Et on était toutes les deux avec une année un peu mois de césure et Colline en train de chercher du travail. On voulait faire un projet de voyage, mais qui ait un peu de sens. Du coup, on a décidé de partir dans trois pays, donc en Mongolie, au Japon et aux États-Unis, pour faire des reportages sur des initiatives innovantes et solidaires, donc dans les domaines de l'architecture, de l'agriculture et de l'artisanat. Et parallèlement à ça, on mène donc des ateliers en Normandie, donc la région d'où on vient, pour travailler avec les enfants, donc du coup pour les sensibiliser à l'architecture et puis aussi pour les faire voyager avec nous. Donc voilà, le projet en quelques mots, c'est ça.
Ouais.
Et donc là, on est parti depuis un peu plus de 2 semaines en Mongolie.
La Mongolie, or, il se passe, parce que là, vous en êtes témoin, il y a un exode rural, on quitte les villages, les grandes steppes et on se rapproche, alors dans des bidonvilles, on se rapproche des villes et entre autres de la capitale Oulan Bator.
Oui, oui, bah oui, il y a un gros problème avec l'élevage. En fait, beaucoup de Mongols sont éleveurs et là, il y a eu des hivers assez rudes, donc beaucoup ont perdu leurs troupeaux. Et oui, il y a beaucoup d'exodes ruraux vers Oulan-Bator. Nous, par exemple, la première nuit où on est allé là-bas, on a dormi chez une dame qui vit dans un quartier de yourtes. Il y a plein de quartiers de yourtes qui poussent en fait sur les collines dans la ville. Et donc là, c'est beaucoup de gens qui ont quitté la campagne et qui s'entassent un peu parce que les appartements sont trop chers et qui vivent du coup dans des yurts qui s'apparentent à des bidonvilles, mais qui sont quand même un peu plus confortables dans la mesure où l'habitat traditionnel est en fait fait pour être monté facilement et donc beaucoup plus adapté à ce mode de vie.
Ouais. Alors dans ce contexte d'urgence et d'exode, est-ce que vous trouvez quand même et vous rencontrez des démarches innovantes?
Bah alors du coup, pour l'instant, on a passé 10 jours dans une ville qui s'appelle Rarorin. Donc c'est l'ancienne capitale de la Mongolie pendant la grande époque de Genghis Khan. Et donc là, on a passé 10 jours avec une jeune française qui vient via une association française qui s'appelle LAPO. Et en fait, elle est en train de mener du soutien à l'agriculture locale. Donc pour développer le fourrage, qui justement est un des gros problèmes des éleveurs qui cause souvent les pertes des troupeaux. Pour faire du fromage aussi, parce qu'il y a des problèmes de gestion du lait et tout. Ils ont beaucoup de lait, mais ils n'arrivent pas à le conserver, à le vendre et à faire une vraie production. Du coup, on est resté 10 jours avec elle pour voir un peu... Elle vient d'arriver, donc pour voir comment s'installer sa mission. Ils ont plein de partenariats avec beaucoup d'agriculteurs, avec des écoles et tout. Donc pour l'instant, on a vu ce projet, mais après, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en trouver d'autres. On a vu aussi une école qu'une association française a construite, mais en fait, sans le soutien des pays étrangers, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des initiatives locales qui se développent. Enfin, après, c'est aussi qu'il y a vraiment la barrière de la langue. On est assez dépendant, par exemple, là, on est avec une interprète, donc on est assez dépendante de ça. Il y a quand même des choses qui sont, il y a quand même une grande demande, par exemple sur l'agriculture, il y a vraiment une demande de la part des locaux qui est vraiment importante.
Oui. Et sous quelle forme vous réalisez vos reportages ?
Alors, pour l'instant, on tient un blog où on met un peu des photos, des relevés, plein de petites choses qu'on a, des petites anecdotes. Et ensuite, on va, quand on aura un peu plus de temps pour se poser, on va vraiment plutôt écrire.
Donc avec une publication en retour ?
Oui, voilà, plutôt ensuite. En fait, on envoie beaucoup de nouvelles aux enfants avec qui on est en contact sur les écoles. En fait, on a plein de petits projets de reportages. Par exemple, là, normalement, on va être publié par l'architecture d'aujourd'hui. On est en contact avec Astrapi. Enfin, en fait, on écrit nos reportages et ensuite, on essaie de les diffuser un peu dans des structures pour des publics différents. Et parallèlement à ça, on a notre blog et qu'on tient un peu à jour régulièrement.
Le projet s'appelle « Des hommes et des lieux ». On dit un projet, mais vous vous entendez, il est en cours de réalisation en Mongolie. Ensuite, au Japon, on parlera de contre-culture et aux États-Unis, des mouvements citoyens et étudiants qui naissent en réponse aux inégalités sociales actuelles avec Capucine et Colline, le site. Alors, il y a une page Facebook, c'est Colline Capucine, c'est très simple. Et puis, il y a un site aussi avec Capucine et Colline. Merci Capucine et bon voyage.
Bah, merci beaucoup à vous.
Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
La semaine prochaine, lors de notre passage chez le voisin normand du Calvados, cette fois, nous vous présenterons une plateforme de promotion des savoir-faire et des entreprises normandies, IAM Normand. Je vous donne déjà l'adresse, c'est iamnormand.fr, créée il y a tout juste un an, qui se présente comme la vitrine de l'identité économique des deux Normandies réunies en une seule entité régionale. Cette plateforme comprend une section IAM Solidaire, dédiée aux associations et actions solidaires. Parmi elles, Tritou Solidaire, une ressourcerie historique parce qu'elle fut la première à apparaître dans l'ouest de la France en 2005. Créée par des habitants de Saint-Lô, 3 salariés au départ, l'association va signer un contrat de partenariat avec l'organisme chargé des traitements des déchets de 130 communes du Centre Manche. Son démarrage est quasi fulgurant, tout comme son poids de volume recyclé. En 2008, 77 tonnes, 540 tonnes aujourd'hui, 28 salariés dont 18 employés dans le cadre d'un chantier d'insertion selon la logique des 3 R, réduire les déchets, recycler et revendre. L'association sensibilise en informant la population sur les réalités des déchets, des encombrants et le bien fondé d'une économie circulaire. Figurez-vous qu'en 2016, 850 000 personnes ont été touchées par cette action et la lutte contre le gaspillage fait ses preuves. 73% des objets ont pu être réutilisés, 23 recyclés et seulement 4 ont été enfouis. Tritou Solidaire, un local à la déchetterie de Saint-Lô et un magasin de 450 mètres carrés à Agneau, allez-y. Et puis j'apprends d'ailleurs grâce au site tritousolidaire.fr qu'un quart des personnes vivantes en France habitent désormais dans une commune couverte par un service de ressourcerie. Donc tritousolidaire.fr. Stanislas Gosset, bonjour.
Bonjour Philippe.
Stanislas, nous allons parler avec vous du prochain festival du 22-28 juillet, des fieffés musiciens. Vous en êtes des fieffés musiciens, vous, puisque vous êtes violoniste. Alors, vous êtes à l'origine de la création du duo Mercutio et de Quatuor Ernest, le duo avec le pianiste Johan Vacher. Et vous êtes à l'origine, en fait, de ce festival.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, tout a commencé au Manoir de la Fief, où j'avais donné un concert en 2013 avec Johan Vacher, donc qui est pianiste. Et à la suite de ce concert, on a pu constater qu'il y avait une grande demande pour des événements culturels dans cette région. Et comme moi, par ailleurs, c'était une région que je connaissais très bien, puisque mes parents ont une maison finalement à Surtainville, où j'ai passé toutes mes vacances depuis mon plus jeune âge, donc je me suis dit que c'était l'endroit où fonder un festival de musique de chambre.
Alors, c'est un événement qui se prépare à l'année avec une résidence au préalable.
Alors en fait, tous les ensembles sont des ensembles constitués, donc ils jouent ensemble toute l'année. Et ensuite, on les accueille pendant une semaine au mois de juillet, avec là cette année 6 concerts.
Alors pourquoi les Fieffés ? C'est à cause du manoir de la Fief.
Voilà, exactement. C'est le manoir de la Fief, donc qui a été le premier endroit à nous accueillir. Et à partir duquel, maintenant, on se dispatche dans beaucoup de lieux, parce que le patrimoine du Cotentin est très riche. Cet été, on a le manoir de la Madeleine à La Hague, on a aussi l'église de Barneville, l'orangerie du château de Flamanville, ou aussi l'abbaye du Vœu à Cherbourg. Et en fait, ça va vraiment avec l'esprit du festival, qui est d'apporter la musique de chambre et la musique classique à la fois à un public le plus varié possible, ou à un public qui n'en a pas forcément l'accès de prime abord, et aussi dans des lieux un peu inhabituels où on n'a pas l'occasion d'entendre des concerts. Donc c'est parfois des jauges qui sont assez petites, mais ça favorise aussi un dialogue avec le public, que ce soit au pot après le concert ou dans la présentation du concert, dans un esprit de convivialité en fait.
Et l'esprit de cette année va être orienté autour du cinéma.
Exactement, alors c'est aussi dans cet esprit qu'on donne chaque année une thématique au festival, pour donner aussi un point d'accroche au public et une cohérence à l'ensemble des concerts. Et cette année, c'est le cinéma, donc on aura notamment deux ciné-concerts avec le compositeur Carole Beffa, qui va nous faire l'honneur de venir pour l'ouverture improvisée sur un film de Murnau qui s'appelle L'Aurore.
Oui.
Et un autre ciné-concert qui sera dédié à Chaplin. Et ensuite, tout au long du festival, il y aura soit des œuvres extraites de bandes originales de films qu'on retrouvera au concert, soit des œuvres classiques qui ont ensuite été utilisées dans des films, donc pour montrer vraiment la symbiose entre ces deux arts.
Il y a une volonté de s'ancrer dans le territoire, mais aussi de donner une valeur de solidarité à ce festival. Vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, complètement. Alors, on est en partenariat avec plusieurs associations, et notamment Cotentin Côté Jardin, donc, qui est une association qui regroupe 29 jardins privés qui sont ouverts au public durant l'été. Et grâce à Cotentin Côté Jardin, on a pu notamment être en lien avec l'EHPAD de l'hôpital de Valognes, où on a donné un concert au bénéfice donc des résidents. D'autre part, on essaie de s'impliquer un maximum dans la région avec... On a un projet d'action pédagogique avec le Conservatoire de La Hague qui tiendra certainement à la saison 2018.
Alors, vous nous parliez, Stanislas, d'un programme de musique de chambre. Je vois quand même qu'il y a du tango.
Oui, alors la musique de chambre telle qu'on l'entend, c'est avant tout en fait des ensembles, je disais, constitués, donc des ensembles qui travaillent, des musiciens qui travaillent très régulièrement ensemble, donc en petits groupes de deux à une petite dizaine de personnes, disons. Et avant d'être finalement un genre, donc on se limite pas forcément au classique, et on a beaucoup de chance cette année parce qu'on va pouvoir s'ouvrir à la musique du monde, et notamment au tango argentin avec le Quinteto Respiro, qui est un quintet de tango qui est très reconnu maintenant, qui est soutenu par Gustavo Bettelmann, et qui nous fera le plaisir de mettre un petit peu de danse dans cette programmation.
Et vous, directement, Stanislas, vous allez jouer des musiques de Chaplin ?
Oui, alors ça, c'est avec le duo Mercutio. C'est donc un des deux ciné-concerts où on va projeter des extraits de films de Chaplin. Et comme Chaplin composait lui-même ses musiques de films, on s'est dit que c'était presque obligatoire de l'avoir au programme cette année, vu la thématique. Et c'était finalement le parfait symbole de ce lien entre musique et cinéma. Et
c'est du 22 au 28 juillet, le festival Les Fieffés Musiciens, qui a trouvé son fief dans la Manche et au manoir de la Fief, mais pas uniquement, puisqu'il y a, vous l'avez compris, 5 lieux pour ces rendez-vous. Le site, c'est lesfieffemusiciens.com. Or, Internet refuse les accents, donc vous écrivez lesfieffemusiciens.com. Et il y a également une page Facebook, vous allez retrouver ces adresses à nos pages d'émission. Merci Stanislas.
Merci Philippe.
Et je précise que l'entrée à tous les concerts de ce festival des fiefs et musiciens est libre, autrement dit, gratuite. Je vous annonce, avant de nous séparer, la fête du Lébio, nouvelle édition, qui aura lieu dimanche, dans une soixantaine de fermes, dimanche prochain, le 4 juin. Une soixantaine de fermes de cette région. Et le principe, c'est toujours de vous inviter à prendre un petit déjeuner dans la ferme, rencontrer les éleveurs bio, découvrir leur mode de production. Il y a des animations, des marchés de producteurs, des jeux pour les enfants, des visites, des balades. Et cette année, cette fête se déroule dans un contexte plutôt favorable. Plus de 720 éleveurs ont entamé leur conversion à la bio en 2016. Ils devraient obtenir leur labellisation AB en 2018, ce qui doit normalement à cette date permettre d'augmenter de 30% le cheptel laitier certifié AB. La bio a le vent en poupe. Fête du labio.fr, vous allez trouver cette adresse à nos pages d'émission.